la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Bienvenue à tous, nous sommes le 13 octobre 2025. Enfin libre et retrouver la lumière. Il y a des silences qui en disent plus long que toutes les paroles. Ce matin, on a vu ces silences-là dans les aéroports, dans les hôpitaux d'Israël. Des familles serrées, les yeux rougis, les mains tremblantes. Émotion, les otages sans rentrer. 738 jours d'attente, de peur, d'images insoutenables et d'espoir qui s'effritent un peu plus chaque nuit. Et enfin, la porte s'ouvre. Un prénom crié, un visage qu'on ne croyait plus revoir, un corps trop maigre, un regard absent mais vivant, la vie revient, maladroite, fragile, mais debout. À quelques centaines de kilomètres de là, d'autres familles aussi pleurent et s'enlacent. Près de 2000 prisonniers palestiniens libérés, des mères, des fils, des pères, eux aussi arrachés à des années d'enfermement. Deux peuples, un seul cri qui traverse les frontières et les discours. Que ça s'arrête. Cette libération n'est pas la fin d'un drame, c'est un instant suspendu, un souffle d'humanité dans une guerre qui depuis trop longtemps a fait presque oublier et surtout supprimer aussi des visages. Des plaies, des rancunes, des deuils à peine cicatrisés et pourtant quelque chose s'est passé. Cette nuit, quelque chose a traversé cette nuit, la petite lumière minuscule. Peut-être que c'est ça, l'espoir, une brèche dans laquelle on peut encore croire quand tout paraît perdu. Alors aujourd'hui, on célèbre la liberté retrouvée, mais la vraie victoire, ce sera le jour où plus personne n'aura plus besoin d'être libéré, le jour où la peur ne parlera plus fort que l'amour, le jour où on choisira de comprendre au lieu de condamner. Je ne sais pas si ce jour viendra vite, mais je sais qu'il commence ici, dans nos voix, dans nos choix, dans notre humanité. Alors, je nous souhaite de garder cette lumière-là, de croire entre encore aux deux ponts, encore aux gestes, encore aux mots qui réparent. Je nous souhaite d'avoir le courage de la paix. C'est elle, la plus belle des libérations. Au programme de cette matinale de 19h, l'interview de Éléonore Guillemin-Bolny. Nous parlerons du festival des chatoyantes organisé par le collectif Le Gâtinais Libre. La chronique de Hugo, ravi de te revoir. Nous diffuserons aussi le reportage Bécide Festival réalisé par Adèle et Aude. Le tour de l'actualité, ce sera avec Farah pour le Flash Info. En deuxième zoom, nous parlerons du projet Nectar, un projet qui vise à transformer l'économie de la scène indépendante avec Arthur Perrette, le fondateur, et Marguerite Feingold, chargée de production. Et ce sera mené par Farah. Et pour finir, ce sera Diane pour une chronique libre. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et tout de suite, donc l'interview qui était enregistrée. Donc le 21 septembre dernier avait lieu l'événement les festivals contre-attaquants au pont éphémère, une date off du festival Les Chatoyantes organisé par le collectif Le Gâtinais Libre. Beaucoup de choses au programme et c'est Éléonore qui mène l'interview.
Bonjour Jules Musa, cofondateur et président de l'association Le Gâtinais Libre, qui est une association qui promeut la culture au sein du territoire rural et rapproche un public parfois trop éloigné de la fête. Ça se situe à une heure au sud de Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots qu'est-ce que c'est Le Gâtinais Libre ?
Bah écoute, bien introduire, ravi d'être avec toi. Le Gâtinais Libre, c'est donc une initiative d'un groupe de copains, copines qui s'est élargi, qui partagent effectivement des valeurs et des idéaux avant tout d'amour et d'attachement pour le territoire du Gâtinais, qui est un territoire à une heure au sud de Paris, qui se situe aux alentours de Fontainebleau, de Montargis, de Pithiviers, voilà, Sud-Seine-et-Marne, Nord-Est, Loiret, et qui a envie tout simplement d'être heureux, d'être joyeux, d'être ensemble dans le Gâtinais, En fait, on a tout pour être heureux dans le Gâtinais, il faut juste qu'on s'organise, mais avant tout qu'on en soit conscient, parce que le Gâtinais, ça veut dire la terre pauvre en vieux français. C'est un territoire qui est riche historiquement, mais qui a subi un certain déclassement. Voilà, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un vrai besoin de liens dans un territoire rural, comme dans beaucoup de territoires ruraux en France. Et nous, notre pierre à l'édifice et notre façon de répondre à ces problématiques, c'est de créer des événements qui créent du lien et qui vont rassembler des gens très différents, et j'insiste vraiment sur ça, des jeunes, des familles, des retraités, à travers la culture, notamment les musiques actuelles, donc pop, rock, électronique, la culture populaire, les arts de rue, les arts du spectacle, à travers des initiatives culturelles, donc des événements, des festivals. On a aussi une agence d'artistes, des artistes notamment locaux qu'on accompagne, management, booking, tournée, un petit média aussi local avec des fanzines, avec des reportages, et l'idée, c'est vraiment d'amener certaines idées et une certaine esthétique qu'on peut trouver à droite à gauche, et de l'amener sur le territoire pour pouvoir la proposer sur un plateau à des personnes qui parfois n'ont jamais fait de festival de leur vie, n'ont jamais même quitté le territoire de leur vie, et de créer vraiment un équilibre entre eux, quelque chose de très authentique, d'original, en tout cas on le souhaite, de qualitatif, et quelque chose de très populaire, de très inclusif. Voilà, trouver un juste milieu entre tout ça, et ça donne des très beaux événements, des très belles ambiances, et on commence, mais les choses se développent, et voilà, il y a des problématiques, mais il y a beaucoup de joie.
Est-ce que aujourd'hui c'est un défi de rassembler et de mobiliser des acteurs financiers pour permettre la pérennité du Gâtinais libre en dehors des subventions publiques?
Oui, comme beaucoup d'acteurs culturels, on est traversé par une crise structurelle aujourd'hui. Elle est d'autant plus importante dans un territoire comme le Gâtinais où les problématiques culturelles sont moins évidentes pour les élus, qui ont plus de mal à se positionner, à financer, à accompagner, où il y a moins de moyens où les services de l'État en tout cas sont moins présents. Donc c'est à la fois plus difficile d'avoir des financements. C'est aussi difficile vis-à-vis du public qu'on a, qui est un public avec un pouvoir d'achat qui est assez bas. Donc par exemple, au-dessus de 15 euros, les gens ne viendront pas en festival, au-dessus de 6 euros, ils ne paieront pas leur pinte. Donc il y a des problématiques structurelles, mais aussi des problématiques très locales et très circonscrites qui rendent l'équation financière vraiment difficile. Et effectivement, il y a un vrai besoin de convaincre auprès des élus locaux, auprès des services de l'État. C'est un travail, c'est des dizaines, des centaines, des milliers d'heures d'énergie, d'argent, beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps pour ça. Auprès des entreprises aussi qui n'ont pas énormément de moyens, mais qui sont sensibles au projet. Voilà, en tout cas, ce qui ne tue pas rend plus fort, ça nous motive. On sait qu'on a un impact sur le territoire qui est important, qui est reconnu, et qu'il y a une vraie demande, et c'est ce qui nous motive. Mais effectivement, ça implique beaucoup de sacrifices, beaucoup de réflexions, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on est aujourd'hui au point éphémère pour discuter de tout ça, pour réfléchir et pour s'amuser aussi, bien évidemment.
Tout à l'heure, on a assisté à un talk qui rassemblait l'organisateur du festival de la Douve Blanche, mais aussi Technopole et France Festival, et les chiffres sont alarmants. On dénombre 49% des festivals de musique en 2024 qui étaient déficitaires. Au niveau du business plan, comment on fait pour croire encore au développement et à la promotion de festivals qui puissent toucher un public qui n'aurait pas pu toucher hors du milieu associatif, dans ce secteur très très sélectif?
La loi de la jungle. c'est une vraie question. Je pense que cette situation dans crise, il y a opportunité, c'est étymologique, il me semble, hein, en latin, crise veut dire opportunité. Je parle sous réserve. Non, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans les situations de crise qu'on s'affirme, qu'on survit, et que on est plus fort, et aussi le fait qu'on est poussé à se réinventer, à se remettre en question. Et je pense que notre asso a une capacité de réaction et de remise en question qui est importante, et qui nous fait du bien aussi. La question, c'est de, bien qu'on veuille avoir un impact sur le territoire, comment est-ce que nous, en tant qu'humains, citoyens, bénévoles, parce qu'on est une association qui n'a pas de salariés, comment est-ce que nous, on trouve notre compte aussi, parce qu'on donne beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, ça nous pose des questions sur le format, sur l'identité qu'on veut avoir sur notre festival. Est-ce qu'on veut être un festival de musique, de culture, simplement un festival de musique? Qu'est-ce qu'on veut proposer? En fait, nous, on est convaincus qu'on peut, en termes de format, proposer quelque chose d'aussi qualitatif, voire de plus qualitatif, d'attirer autant, voire plus de monde, mais avec des budgets qui sont beaucoup moins importants. Pour, à titre d'information, donc, on a fait 3 éditions du Festival des Chatoyantes. Actuellement, enfin, la dernière édition avec 80 000 euros, on était déficitaire de 20 000 euros. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Mais l'idée, c'est de se dire que peut-être avec quasiment 2 fois moins de budget, 40 ou 50 000 euros, on peut proposer quelque chose d'exceptionnel. Il faut avoir en tête que les gens à la campagne, dans le Gâtinais, viennent pour l'ambiance, pour voir des, voilà, pour des ambiances qui leur sont, qui les touchent beaucoup, et pas pour des têtes d'affiche. Donc c'est pas, enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a un levier et qu'on peut dépenser beaucoup moins d'argent en programmation. On peut aussi réduire les coûts des charges techniques qui sont très importantes, notamment des intermittents, en fonction aussi de ce qu'on va proposer. La charge technique sera, pourra être moins importante, et les coûts qui seront induits seront potentiellement plus bas aussi. Voilà, c'est en tout cas à nous de nous adapter, mais pour le meilleur, puisque less is more. Voilà, on va économiser de l'argent, mais on va aussi économiser de l'énergie, et on va d'une certaine manière, enfin voilà, la décroissance, c'est une chose qui est globale. Il y a une vraie problématique par rapport à ça, de mobilisation pour faire tourner l'association, justement. Voilà, donc on y travaille beaucoup, mais c'est vraiment un enjeu primordial.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la présence du Gâtinais Libre en ligne sur votre site gâtinaislibre.com?
On a de la chance d'avoir des bons communicants et graphistes, donc sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, donc Instagram, Gâtinais Libre ou Festival des Chatoyantes, gâtinaislibre.com, voilà. Et puis on a aussi un certain nombre d'événements qui sont prévus à l'automne, hiver et l'année prochaine. On organisera les 13, 14 et 15 novembre le festival Fulgurance électronique à Orléans, avec nos chers camarades de Clair Obscur, en partenariat aussi avec Radio Campus Orléans, qui est un festival qui vise à démocratiser la musique électronique, avec un format sur 3 jours dans différents lieux, dans des tiers-lieux, le 108, l'Astrolabe, qui est un smack assez exceptionnel aussi, avec des talks, avec des conférences, avec aussi une sorte de village associatif, avec différentes directions artistiques en fonction des soirées. On aura tous les registres de la musique électronique, évidemment house, techno, basse. On aura aussi des registres hybrides avec de l'acoustique et de l'électronique. Ça va être un très bel événement. C'est effectivement la première année, donc c'est le moment de venir pour dire j'y étais pour la première fois.
Est-ce que tu as un ou deux noms à nous partager pour les plus téméraires qui seraient prêts à se déplacer, les Parisiens?
C'est sûr, ils vont se déplacer, on sait faire. On va faire venir un super artiste qui s'appelle Fun Ryu, qui fait de, enfin qui a un spectre voilà électro très large, qui vient d'Orléans en fait et qui est assez connu sur la scène parisienne. Donc c'est une grosse exclue, et on collab plus ou moins aussi avec le label qui s'appelle Organique, qui est un label plutôt techno, art techno, assez connu sur Paris et même en France, voire à l'international. Et on a une artiste comme 25e Heure qui viendra, et puis beaucoup d'autres artistes émergents et confirmés, connus de la scène orléanaise, de la scène française, mais pour l'instant, voilà, on n'en dira pas plus.
Du beau monde, merci Jules d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, le 13, 14 et 15 novembre, Fulgurance électronique pour sa première édition.
Et c'était donc l'interview d'Éléonore pour le collectif Le Gâtinais Libre, pardon. Et tout de suite, on va retrouver Hugo pour sa chronique. Ok, bon bah bonsoir Hugo.
Bonsoir Francesca.
Comment vous allez?
Ça va, bonsoir la France, comment ça va?
Ça va.
Bonsoir Sébastien, au revoir Sébastien, au revoir, bonjour Sébastien. On ne sait pas, on ne sait plus finalement. En tout cas, au revoir Bruno. Et Bruno, ça fait un peu animateur de colo. S'il apparaît Taïo derrière, ça ferait un peu. Bref. Est-ce qu'il a le BAFA? On ne sait pas, on ne sait plus. Bref. Salut, moi c'est Hugo, 29 ans. Ça doit pas, je fais 26 apparemment. Bref, pas de calvitie. Chez. Mes cheveux, c'est ma plus grande force. Ils sont longs, châtains, mais je dis blond vénitien. Et tu peux tirer dessus autant que tu veux, ils tomberont pas. Sans transition, quand j'étais jeune, au début de cette fabuleuse aventure qu'on appelle le sexe, je jouissais trop vite. Du coup, comme plein de gars, je trouvais plein de techniques pour retarder un petit peu l'atterrissage. Technique numéro 1, je faisais des tas de multiplications, mais une fois j'ai fait 7 x 8, j'ai pas trouvé, j'ai débandé. Deuxième technique, je pensais aux pieds de quelqu'un de très très vieux, genre François Bayrou ou Joe Biden. Je dis pas que je pensais vraiment à eux, à leurs pieds, mais je pensais, enfin ce serait un bon exemple quoi. Troisième technique, attention, c'est hyper spécifique. Je pensais à moi-même dans un yaourt à la vanille ou au chocolat en train de me noyer dedans et ça marchait incroyablement bien. Je sais pas, c'est la texture du yaourt qui va, ben, voilà quoi. Le sexe, ça vous fait souvent rire parce que parler de l'intime pour faire rire, c'est une facilité. Même si je sais que quand vous rigolez, c'est que vous reconnaissez un petit peu. Alors, le yaourt, les pieds de Bayrou ou les mathématiques? Quel est votre choix, Francesca? Le sexe, c'est une grande épreuve de comparaison. Tu veux toujours faire mieux en tant que mec et ta copine te dira toujours que t'es un très très bon coup, mec. Alors que des fois, tu fais le même temps que Léon Marchand sur le 100 mètres brasse. 1 minute 59, je fais comme Léon, mon amour. Tout pareil, tout pareil, tout pareil. On se compare tout le temps, alors que bon, des fois, il faut juste attendre. Moi, je sais que physiquement, je suis un 7 sur 10, mais par contre, à 36, 37 ans, quand vous allez tous être chauves, je vais devenir un gros 10. Ben ouais, gros, je suis le seul sur le marché avec des cheveux blonds et longs, et je nique toute la concurrence. Parce qu'en ce moment, les trentenaires, ils sont tous sur Strava en train de faire des 15 km le dimanche matin à 8h du mat. Mais dors, en fait, dors ou crève. Tout ça pour avoir 6 abdos. Moi, je suis juste maigre, on a toujours cru que j'avais des abdos, mais en fait, c'est juste qu'on voit mes côtes. Voilà. Pas besoin de forcer, à 36, 37 ans, je vais être là avec mes cheveux et mes côtes qui ressortent, je vais me taper toutes vos meufs et elles vont toutes pouvoir me tirer les cheveux. Je pense qu'on devrait créer un Strava du sexe. Et c'est sûr que les mecs, ils feraient moins les malins parce que ceux qui font 15 km le dimanche matin, eh ben en fait, c'est que la veille, ils ont fait un 45 secondes. Alors, on pense tous bien fort aux pieds de François Bayrou. Merci beaucoup, c'était Hugo.
Merci beaucoup, Hugo. Alors, on revient tout de suite après une petite pause musicale. On écoute ZK6, désolé, avec le titre Ride. Il est 19h17 et vous êtes sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h. Et nous venons d'écouter ZK6 avec le titre Ride. Et tout de suite, c'est la chronique.
La matinale de 19h.
Alors, je ne l'ai pas annoncé tout à l'heure, je m'excuse, et il s'appelle Abel. Donc, c'est la chronique de Abel. Bonsoir, Abel.
Bonsoir, Francesca.
Et ce soir, vous allez nous parler cinéma, je crois.
Oui, exactement. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, pour notre chronique d'actualité, j'hésitais à vous parler de Trump, de Le Cornu, des prix Nobel, mais on va parler de quelque chose de beaucoup plus ennuyeux, et ce sera la nouvelle vague. Parce que j'ai fait ma première chronique sur Elisabeth Borne, j'avais besoin d'un peu plus de légèreté. Et en termes d'actualité, ça peut paraître peut-être un peu fané, mais ce week-end, je suis allé voir Nouvelle Vague, sorti mercredi dernier, écrit et réalisé par Richard Linklater. Alors, c'est pas très original au niveau de la thématique ou au niveau du nom, mais le film nous raconte les débuts de la Nouvelle Vague, et ceci à travers le tournage d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard, probablement un de ses plus éminents représentants, que ce soit le film ou le réalisateur d'ailleurs. Et dedans, on y aperçoit François Truffaut, Suzanne Schiffman, Claude Chabrol ou Éric Rohmer, que de grands noms d'une des plus belles époques du cinéma français. Et il y a tout de même une information importante à retenir, c'est que tout ce petit monde s'est accoquiné pour former, en tout cas sous sa nouvelle forme, les non moins connus cahiers du cinéma, pour devenir par la suite les réalisateurs les plus émérites de leur génération. Pour ceux qui ignoraient l'existence des cahiers du cinéma, c'est probablement le mensuel le plus intellectuel ou condescendant, selon les points de vue, sur le 7e art. Oui, parce qu'ils sont pas très faciles à suivre, mais pour résumer, soit ils adorent, soit ils détestent. Et d'aucuns diront que c'est facile de résumer, mais j'ai que 3 minutes, donc si vous en voulez plus, allez sur Allociné et vous comprendrez par vous-même. Mais en tout cas, moi je me suis demandé qu'est-ce qu'ils en ont pensé, les cahiers du cinéma. Eh bien, c'est un tout petit 5 étoiles de la part de la réaction. Surprenant, peut-être pas, mais écoutez leurs critiques. On sort de Nouvelle Vague le cœur léger, et ce n'est pas le moindre mérite d'un film aussi attendu au tournant, lesté des poids considérables du mythe et de l'histoire, que d'aboutir à un sentiment aussi simple. Alors oui, c'est facile d'encenser un film qui rend vos lettres d'or et votre immortelle légitimité. Cependant, ils n'ont pas entièrement tort, parce que c'est un film au sujet lourd et pourtant accessible, nostalgique et pourtant dénué d'une mise en scène qui pourrait être d'un fanatisme de cette époque. Et il y a une question qui me fait cogiter, après tout ça, c'est pourquoi cette terre française du 7e art fascine autant et influence toujours notre époque. Tout d'abord, elle s'inspire elle-même du cinéma classique américain ou de l'Italie, avec des Roberto Rossellini par exemple, et elle se crée en opposition à une tradition cinématographique jugée trop conservatrice, peinant à renouveler ses thèmes, sa mise en scène ou même ses acteurs, là où la nouvelle vague instaure des nouvelles formes de tournage en plein air, avec des lumières naturelles, des acteurs inconnus, des budgets restreints, des idées novatrices de montage, d'esthétique, d'écriture. Bon. Et on arrête enfin avec les incessantes adaptations littéraires. Bon, j'arrête un peu d'être un vieux geek, parce qu'au final, mon propos, c'est de dire que la majorité des films auxquels on a accès aujourd'hui existent en partie grâce à cette époque. Parce qu'au-delà de l'influence du style et de la forme, ce sont des créateurs du cinéma d'auteur. Et même si c'est connoté pénible, le cinéma d'auteur, ça signifie que le réalisateur n'est plus un exécutant, mais un auteur propre avec un style et une vision. Elle pousse les créateurs à s'exprimer librement, avec leur propre langage cinématographique. En fait, elle a brisé les règles établies pour créer une nouvelle grammaire autour de la création. Et ce n'est pas uniquement du nouveau pour le nouveau, puisqu'elle aborde des questions existentielles, sociales et culturelles. Elle fait réévaluer le cinéma dans le monde culturel au-delà du rang de divertissement. Et c'est grâce à elle aujourd'hui qu'on a réussi à avoir des Scorsese, des Tarantino ou des Wes Anderson. Pour moi, Nouvelle Vague, ce fut 1h30 plutôt agréable, mais aussi un film qui m'a poussé à comprendre un peu plus ce mouvement et m'a donné envie de creuser un peu ce terrier mythique du cinéma français, et j'espère qu'il en provoquera autant chez vous. Merci et bonne soirée.
Merci beaucoup Abel, merci beaucoup. Tout de suite, nous allons donc vous diffuser le reportage Bécide Festival réalisé par Adèle et Aude. Bonne écoute.
Hello, moi c'est Anna Tox to the Wind et on est le 8 octobre au B-Side Festival à la Péniche Antipode dans le 19e arrondissement. C'est un projet qui mélange de la chanson en français et de la folk. Et du dessin aussi à travers un peu ma scénographie et sur mes réseaux sociaux aussi. Moi, le B-Side Festival, je l'ai connu vraiment en arrivant à Paris il y a 4 ans pour mes études. Et moi, ça m'intéressait trop la musique live. Donc, je sais pas, je traînais un peu sur Internet et je suis tombée sur le festival. Et en plus, il se passait, j'habitais pas très loin de l'Antipode, en fait. Donc, j'avais pu m'y rendre je sais plus, il y a 3-4 ans je crois. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu. Ma musique, c'est une musique assez intimiste. Sur scène, j'essaie un peu de recréer l'atmosphère de ma chambre, d'une chambre d'ado un peu imaginaire. Et c'est une musique assez mélancolique aussi, qui est assez, qui parle de sujets peut-être un peu assez tristes en fait. Mais j'essaie de faire en sorte que ce soit aussi quelque chose de réconfortant et que malgré la mélancolie, on puisse avoir aussi un truc un peu de consolation en fait. J'ai commencé un peu la guitare et le chant quand j'étais petite, vers genre 9 ans, un truc comme ça. Et plutôt avoir cette envie de me professionnaliser, je pense que ça fait 2-3 ans que je fais mes chansons et que j'essaie de faire des concerts et me professionnaliser. Voilà.
C'est quoi tes inspirations musicales ?
Il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Vashti Bunyan qui aujourd'hui je crois qu'elle a 90 ans. C'est une artiste britannique qui fait de la folk. Vraiment, elle a commencé dans les années 70 et tout. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très berceuse, très doux. Et j'aime aussi beaucoup Claire Dace qui est une artiste plus récente, vraiment actuelle, qui fait de la chanson assez folk, parfois en anglais, en français. Enfin, c'est aussi très beau, voilà, j'aime beaucoup.
Et on a vu que tu avais un petit setup sur scène, est-ce que tu peux nous le décrire ?
Oui, carrément, bah, sur scène, j'ai voulu reproduire cette atmosphère d'une chambre, en fait. Donc j'ai une petite table de chevet, une petite lampe qui est une lampe Tiffany, c'est un peu inspiré de la lampe qu'elle avait ma grand-mère chez elle. J'ai aussi le lecteur cassette de mon père que j'utilise pour diffuser des petites bandes-son pendant les morceaux. Et j'ai aussi des petits napperons par-ci par-là. Je sais pas trop pourquoi, j'ai trop d'affection pour ces bouts de tissu, je trouve ils ont un côté trop touchant, genre. Du coup, j'en ai mis pas mal sur scène et voilà. Je m'apprête à faire une résidence dans une salle qui s'appelle Le 12 à Cergy, qui est une salle qui m'accompagne, pour un peu travailler mon live, et j'aimerais bien aussi faire une live session pour pouvoir capturer un peu ce nouveau concert et en faire d'autres par la suite, voilà.
Je m'appelle Ambre, je suis la présidente de B-Side Label et ce soir on est à la Péniche Antipode pour la 6e édition du B-Side Festival. Donc c'est sur 3 jours et nous on accueille principalement des artistes étudiants et donc de la scène émergente. Donc on a une sélection de 9 artistes qui vont se présenter sur 3 jours. B-Side Label, c'est une association qui soutient les artistes émergents mais aussi les personnes qui veulent se professionnaliser dans l'industrie de la musique ou simplement des amateurs qui veulent en découvrir davantage ou partager un petit peu ce qu'ils font. Ce soir, on a 3 artistes. On a Anna Talks to the Wind qui a ouvert le concert. Ensuite, on aura Lemia. Et pour terminer la soirée, on aura Guéné. Demain soir, on a, je ne sais plus si c'est dans l'ordre, mais en tout cas, on a Réum, on a Confessions et on a Moram. Pardon. Et vendredi, on aura Marceau, Chromophile et Nods pour clore le festival.
Et donc, d'où vient cette idée de vouloir mettre en avant du coup, ces artistes de la scène émergente parisienne ?
Ça part tout simplement d'un constat et il y avait vraiment besoin d'accompagnement et de quelque chose pour promouvoir les artistes émergents et leur apporter plus de visibilité.
Et du coup, ces artistes émergents, ils sont majoritairement jeunes, même étudiants.
On a pour but vraiment d'aider les étudiants à se professionnaliser dans le monde de la musique ou même des musiciens amateurs qui ont envie un peu d'en découvrir plus. Et actuellement, on propose plusieurs formations, plusieurs stages. On a notamment les formations professionnelles donc qui vont suivre. C'est tout un cycle en fait de 3 heures sur différents... moment, on va dire, de la professionnalisation. On va apprendre à se financer, on va apprendre à pitcher son projet, on apprend comment se structure tout simplement l'industrie musicale et tout ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses.
Trop bien. Et est-ce que ce soir, tu as un artiste ou une artiste coup de cœur ?
Ah, c'est pas facile. En vrai, je les aime tous. J'ai envie de dire Anna pour toute la DA qu'il y a autour de son projet. C'est vraiment quelque chose de très intimiste sur scène. Elle a quand même une petite scénographie, elle a une petite lampe de chevet, elle a une petite table de chevet aussi. Elle a vraiment un univers qui est très mignon et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais je les aime tous, promis.
C'était le reportage du B-Side Festival réalisé par Adèle et OD. Tout de suite, c'est le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Le Flash Info, et c'est avec vous Samia. Bonsoir Samia.
Bonsoir Francesca.
Alors, quelles sont les nouvelles ?
Eh bien, on commence la semaine avec des événements forts. Tout d'abord avec le plan de paix pour Gaza. En effet, un sommet est organisé ce lundi 13 octobre en Égypte, dans la ville de Charm el-Sheikh, où un document mettant fin à la guerre dans la bande de Gaza devrait être signé. Ce sommet sera présidé par le dirigeant Abdel Fattah el-Sissi et co-présidé par Donald Trump. Emmanuel Macron sera également présent, ainsi que plusieurs dirigeants du Moyen-Orient, dont le roi de Jordanie Abdallah II et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Aucun représentant de la Palestine ni le premier ministre israélien ne seront présents durant ce sommet. Pour le moment, Israël a annoncé avoir libéré 1968 prisonniers palestiniens en échange des 20 otages et ainsi que des 4 corps rendus par le Hamas. Et puis, en cette presque fin d'année 2025, l'Académie royale des sciences de Suède a attribué le prix Nobel d'économie pour les travaux du chercheur français Philippe Aguillon et deux chercheurs américains, Joël Mokyr et Peter Howitt, pour leurs travaux sur la croissance tirée par l'innovation. C'est-à-dire qu'ils ont, par leurs travaux, lié l'idée du progrès et la croissance durable aux nouvelles technologies et également au concept de destruction créatrice, c'est-à-dire le remplacement des anciens produits par de nouveaux, plus efficaces. De retour en France, suite au retour de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre, un nouveau gouvernement a été établi dimanche soir et entre en fonction dès aujourd'hui. En effet, le temps presse, le budget 2026 doit être présenté en ce début de semaine à l'Assemblée nationale. Par conséquent, Lecornu a réuni les nouveaux ministres à Matignon à 14h30. Un conseil des ministres devrait se tenir le mardi 14 octobre au retour du président, afin de soumettre le projet budget 2026 au Parlement dans la même journée. Fait divers maintenant, c'est à partir du lundi 13 octobre que commence la dernière semaine du procès, de Cédric Jubilard, accusé du meurtre de sa femme Delphine Ossagel, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Encore aujourd'hui, le corps de la victime n'a pas été retrouvé et l'accusé est inflexible face à sa position. Il affirme toujours qu'il n'a pas tué sa femme malgré les témoignages qui semblent l'accabler. À savoir que le verdict du procès se déroulera vendredi, durant lequel l'accusé pourra délivrer ses derniers mots à la cour. Et on finit avec l'actu culture. C'est le mercredi 15 octobre que sortira le premier long métrage de l'actrice et réalisatrice Kristen Stewart avec The Chronology of Water, adaptation du roman autobiographique de Lydia Yuknavich, paru en 2015. L'autrice relate les abus et traumatismes qu'elle a vécu au sein d'une famille toxique et négligente et de comment la natation et l'écriture ont été comme un refuge pour elle. L'adaptation cinématographique représente de manière brute et imagée ces événements violents et monstrueux que Lydia, interprétée par Imogen Poots, croit avoir fui, mais indirectement la poursuivre dans sa vie adulte, tant physiquement que psychologiquement. Ainsi, le film dessine l'anatomie d'un mal et le long chemin de la guérison qui s'ensuit.
Merci beaucoup Samia, merci beaucoup. On revient tout de suite après une petite pause musicale, on va écouter un artiste du festival B-Side. Ce sera donc Anna Talks to the Wind avec le titre Pause Bleue. Il est 19h34 et vous écoutez Radio Campus Paris. Vous êtes sur la matinale de 19h.
Le temps me fait l'effet d'une boucle, d'une durée éternelle, et je souffre de ne voir le bout du tunnel aller obscur sans lumière du soleil. Boucle, boucle, le temps me fait l'effet d'une boucle, d'une durée éternelle, et je souffre de ne voir le bout du tunnel aller obscur sans lumière du soleil. Blouse, 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 bleu du ciel se reflète en mon cœur. Flotte les les heures. D'avenir si à l'éveil, je préfère la douceur de mes nuits, croissant de lune pour veiller sur mes insomnies. Blouse, 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 bleu du ciel se reflète dans mon cœur. Pose, 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 sablier horizontal, flotte les heures.
D'écouter Anna Talks to the Wind avec le titre Pause Bleue. Et tout de suite, c'est notre deuxième Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Alors, dans ce deuxième Zoom, nous allons parler projet Nectar. Donc, c'est un projet qui vise à transformer l'économie de la scène indépendante. Et ce sera avec cher Arthur Perrette, le fondateur, et Marguerite Fengold, chargée de production. Et cette interview sera menée par Farah. Bonsoir Farah.
Bonsoir. Alors, pour qu'il y ait un concert, on a besoin d'organisateurs, d'artistes et d'un public. Et le rôle de Nectar, c'est de catalyser la rencontre de tout ce beau monde, mais pas que. Et on en parle tout de suite. Dès notre arrivée sur le site internet Nectar Music, une promesse est faite, nous faire découvrir l'underground, ces artistes et ces lieux, ici même, à Paris. Parmi les styles musicaux, on peut retrouver des offres de metal, punk, indie, rock, pop, blues, chansons françaises et même du R&B. Si, si. Alors pour vous, Arthur Perrette, c'est quoi la scène underground ?
Alors je dirais que la scène underground, en fait, c'est tout l'art qui se crée autour des artistes d'une manière un peu organique, avant justement qu'il y ait énormément de moyens en com, en production, et vraiment le public qui se rassemble de lui-même parce que c'est des artistes qu'ils aiment et qui les a atteints comme ça.
Et pour vous, Marie Fengold ?
Pour moi, c'est plutôt de passer un bon moment, d'accompagner des artistes et surtout de découverte.
Et qu'est-ce qui vous a amené à créer une plateforme ? Parce que c'est une plateforme, et vous en parlerez un petit peu aussi, c'est une plateforme qui s'incarne après à travers des concerts et des événements, juste vraiment ciblée sur cette scène underground.
Au départ, c'est surtout qu'on en a fait, un peu partie, moi en tant qu'artiste, Marguerite comme manager, et on s'est demandé quelles solutions on pouvait trouver pour faire un peu de bien à cette économie et faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur art un peu mieux. Comment rassembler des gens pour faire en sorte que ces soirées aient lieu, qu'il y ait une plateforme en fait pour ces artistes, pour créer, pour partager avec leur public. Et nous, ce qu'on a appris après concertation avec pas mal d'artistes, c'est que ce qu'ils voulaient, c'était vraiment pouvoir se produire en live. Et du coup, on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ces concerts aient lieu et pour que ces artistes aient des moyens de se produire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu antinomique autour de notre imaginaire du milieu underground et de le visibiliser un petit peu plus, justement de prendre ces tickets ? Moi, j'ai l'impression que des fois, c'est des choses où tu n'as pas entendu parler du concert, enfin, des choses un peu plus système B. Voilà, est-ce que ce n'est pas un peu plus mainstream de se dire « Ok, on arrive dans un événement, on prend nos tickets, comme n'importe quel concert.
Bah après, ça reste beaucoup des concerts d'artistes qui sont au début de leur carrière ou qui ne sont pas encore extrêmement connus. Donc en général, si on les découvre, ça reste qu'on suit le bon compte Instagram, qu'on a le pote qui nous a dit « viens au concert ». Et en fait, nous, ce qu'on permet, c'est juste qu'il y a les outils qui permettent à ces spectacles d'avoir lieu d'une manière super fluide. Et après, par contre, pour la découverte, etc., ça reste quand même des cercles qui sont ceux des artistes, qui sont ceux des gens qui en font la promotion, etc.
Et un événement Nectar, c'est souvent du coup, plusieurs concerts d'artistes émergents et des prix qui varient entre 0 et 10 euros. Alors, c'est une volonté de votre part de garder cette fourchette de prix-là ?
Ouais, c'est une volonté de notre part. C'est aussi une volonté souvent de la part des artistes de rester accessible pour tous les publics, y compris quand c'est des publics qui sont jeunes ou quand c'est des publics qui ne vont pas forcément mettre 80 euros pour un concert au Stade de France. Et nous, on trouve que c'est super de se dire qu'on peut passer une super bonne soirée pour ces prix-là. Et c'est aussi quelque part une invitation à découvrir ces artistes-là, à aller à des concerts où on ne sait pas forcément à l'avance si ça va nous plaire, si c'est un artiste qu'on écoute déjà ou quoi. Et le fait de ne pas avoir une énorme barrière de prix à l'entrée, c'est aussi l'occasion de dire bah, « allez, on essaie, on découvre et peut-être qu'on va avoir un super moment ».
Et alors Nectar, c'est aussi, en plus de la communication, de la production, de la programmation. Et cette question s'adresse à la chargée de production, Marguerite Feingold. Comment parvenez-vous à programmer tous ces artistes ?
Alors c'est principalement Maxime, avec qui on travaille, qui a fait tout ce beau travail pendant des mois cet été.
Qui est en backstage,
qui est en backstage juste là. En fait, on a contacté énormément d'artistes. On a eu aussi pas mal d'artistes qui nous ont contactés, nous. Et on a pu commencer ensuite à faire une programmation pour que en fait tous les styles musicaux puissent se mélanger pendant la soirée, que ce soit pas, enfin que ça passe pas du rock au métal au punk en une seule soirée. C'est un gros travail d'écoute, enfin journalier au final. Et après au final c'est pour que tout le monde passe une bonne soirée, que le public soit content d'être venu pour voir ses copains et être reparti avec deux autres groupes superbes à écouter.
Et le fait de garder un peu ce fil rouge en termes d'identité musicale. Pourquoi c'est important ? Parce que moi, je m'imagine maintenant, par exemple, en festival où on peut écouter justement de tout. Pourquoi c'est important ? Bah, pour vous, en tout cas.
Les genres principaux qu'on a sélectionnés, c'est parce que c'est ce qu'on écoute et c'est ce qu'on aime. Et c'est tout de suite plus facile en fait, de pouvoir programmer des artistes qu'on va nous pouvoir écouter quotidiennement. Mais on est en train de s'ouvrir à de nouveaux genres en fonction des arrivages dans l'équipe. Donc c'est un bonheur.
Et pour découvrir, donc on parlait d'artistes émergents tout à l'heure, alors il faut aussi les découvrir, les nouveaux et les nouvelles. Vous organisez le tremplin Nectar. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela fonctionne, le tremplin Nectar ?
Alors un tremplin, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours de musique en plusieurs étapes, avec des sélections, un appel à candidature, des quarts de finale, demi-finale et finale. Et en fait, le tremplin, le nôtre, le tremplin Nectar, il n'y a pas en fait, de tremplin pour la scène indépendante, pour les petits artistes. Il y a des tremplins pour les lycéens, il y a des tremplins pour les artistes un peu plus installés. Mais en tout cas, à Paris, moi, je n'ai jamais rencontré cet entre-deux. Et je pense que c'était quelque chose qui devait être exploré. Et ça a été un bonheur. On a organisé la première édition en juin dernier avec le groupe Pareidolia qui a gagné. Et on organise là le deuxième avec les quarts de finale qui vont commencer dans plusieurs villes en France à partir de février. Et un appel à projet qui va être lancé en novembre.
Ça promet d'être du lourd, j'ai hâte de voir ça. Et alors pour situer votre activité, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, en quelques chiffres, Nectar c'est plus de 2000 membres actifs, 70 artistes soutenus. Et pour cet automne et cet hiver, on sait quoi faire avec 12 dates, 4 lieux et 36 groupes à découvrir. Nectar, c'est aussi, ça a aussi été créé pour transformer l'économie de la scène indépendante. Et avant de parler de la manière dont vous avez fait, ou dont vous faites en tout cas pour la transformer aujourd'hui, ça marche comment l'économie d'une scène indépendante ?
Alors déjà, en ce qui concerne le live, c'est assez différent de tout ce qui est musique enregistrée. Nous là, actuellement, on est vraiment sur la partie live. Et en général, bah, y a toujours un public, un artiste et un organisateur. Et l'organisateur, qui peut des fois être l'artiste, va dire, voilà, tel jour, on organise un concert. Et il va devoir trouver une salle, il va devoir trouver d'autres artistes en général pour partager l'affiche avec lui et pour remplir sa salle. Et ensuite, mettre tout en place pour que le concert ait lieu. Donc cet organisateur, ça peut être la salle elle-même, des fois, ça peut être un producteur indépendant qui va mandater un artiste et louer une salle. Et une fois que ce concert, entre guillemets, existe, au moins sur le papier,
il va y avoir une billetterie qui va être créée par l'organisateur et il va la mettre entre les mains du grand public et espérer remplir son concert.
Et alors là, vous, vous proposez une manière de la repenser, cette économie?
Nous, ce qu'on essaie de faire déjà, c'est de vraiment impliquer le côté production comme le côté artiste pour qu'on travaille tous main dans la main et de dire voilà, on va tout centraliser au même endroit et on va essayer que tout le monde parle ensemble pour avoir quelque chose le plus réussi possible. Et ça, ça se répercute sur les rémunérations des artistes, ça se répercute sur le prix des billets, etc. Et vraiment, le but est de se rassembler en un seul endroit pour faire en sorte que on puisse discuter et qu'il y ait le meilleur pour tout le monde.
Et depuis que vous faites ça, est-ce que vous avez des retours d'artistes ou des retours du public sur « Ah, on sent que vous apportez une touche différente » ou
Au niveau des artistes, je pense qu'ils sont assez contents parce que c'est vrai qu'il y a des rémunérations qui sont quand même vraiment indécentes souvent dans les tout petits concerts, notamment quand les artistes se produisent eux-mêmes parce que être un artiste, c'est différent d'être un expert en marketing, c'est différent d'être un expert en com, etc. Et nous, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de le plus possible faire passer les bénéfices dans la rémunération des artistes de manière à ce que plus un concert marche, mieux les artistes soient rémunérés, en fait. Ce qui est assez différent du modèle standard où il y a un cachet pour l'artiste qui ne va pas bouger. Et c'est aussi une manière, en fait, d'impliquer tous les artistes dans la communication pour qu'ils rassemblent leur communauté, pour essayer de les encourager les uns et les autres à envoyer leur communauté vers les concerts des autres. Mmh. Et au final, vraiment de se dire qu'on partage tout à part égale au niveau de la réussite avec les artistes.
Et là, le public joue son rôle aussi.
Oui, bien sûr, parce que plus le public vient, mieux les artistes seront rémunérés, évidemment. Et nous, on essaie vraiment de pousser ce modèle-là pour que tous les artistes disent « Allez écouter les concerts des autres, allez dans les salles de spectacle et que ça rassemble toujours le plus de monde possible. »
Alors, ça va être la fin de cette interview. Merci beaucoup. Je vais quand même rappeler, pour octobre, il reste deux dates, c'est ça? Le 18 octobre et le 23 octobre. Le premier sera au Cirque Électrique et le deuxième, donc toujours à Paris, le club pour la dernière date du mois d'octobre. Prenez vos places et tout de suite, on va écouter un des artistes du festival et ce sera donc In the Distance avec le titre Downfall. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bye.
Donc d'écouter In The Distance avec le titre Downfall. Et tout de suite, c'est la chronique.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
La chronique, c'est avec Diane, ça fait longtemps. Bonsoir Diane.
Bonsoir Francesca. Alors aujourd'hui, et pour mon plus grand retour dans la matinale, j'avais envie de vous parler d'un sujet essentiel à votre quotidien, ma vie sentimentale. Alors déjà, souvenez-vous, en mai dernier, je faisais une chronique intitulée « Jeune demoiselle recherche breton mortel ». J'y parlais de mon amour pour les bretons, du caramel beurre salé et du Mont-Saint-Michel.
Non, Diane... Ne me dis pas que tu vas nous annoncer avec cette nouvelle chronique que tu as trouvé l'amour et que tu vas bientôt déménager du coup à Brest et les galettes bretonnes et
non,
les cidres.
Non. En fait, parce que déjà, je suis toujours célibataire et je compte pas encore me délocaliser en Bretagne. Hein, mais c'est tout aussi intéressant.
Bien sûr.
Au début du mois de septembre, je rencontre un mec sur une application de rencontre. On commence à discuter et j'ai un bon feeling, même un très bon feeling. Je ne vois que des green flags. Un mec de gauche qui va à la fête de l'UMA, cultivé, qui aime répondre à mes questions deep, qui est resté en très bon terme avec ses ex, assez mignon et en plus, qui cherche une relation sérieuse. Pour les red flags, j'en vois aucun à l'horizon. Il y a juste un truc que je ne sais pas encore sur lui, son boulot. Il ne l'a pas écrit sur son profil et on n'a pas encore abordé le sujet. Alors un moment arrive où je lui demande ce qu'il fait et là, j'apprends que le mec est gendarme. Dégringolade d'émotion. Je passe une nuit dessus à repenser à ce mec, à me dire mais peut-on être de gauche et être flic ? Je me fais des films en me disant il y a deux possibilités. Soit il est vraiment vraiment de gauche et c'est un infiltré dans la police pour comprendre comment mieux niquer le système. Soit c'est un énorme facho et c'est un infiltré dans les groupes de gauchistes pour comprendre comment les wokistes dominent le monde. Et puis bon, après une bonne nuit de sommeil, avoir remis un peu mes idées en place, je me dis que si c'était vraiment un énorme facho, je l'aurais un peu déjà remarqué et que sinon ça allait arriver assez facilement. Et puis ce serait bête de passer à côté d'une belle histoire d'amour alors que je ne vois que des green flags à l'horizon et qu'il est clairement pas facho. Alors de fil en aiguille, on continue à discuter, on continue à parler et encore à parler. On fait un premier date pour aller voir une expo, un deuxième date chez moi et un troisième date chez lui. On a passé des moments juste parfaits, presque même idylliques. On s'est embrassés, pris dans les bras, raconté nos vies. Bref, le cadre parfait. Mais il y a un truc qui a remis tout mon rêve en question. En fait, au troisième date, il m'a dit « Juste, j'ai envie de prendre mon temps, de pas aller trop vite entre nous. » Alors en soi, c'est un énorme green flag pour moi. Parce que ça veut dire que le mec me respecte, qu'il veut prendre le temps de m'apprécier à ma juste valeur. Mais moi, ça m'a fait un peu paniquer. Je me suis dit « Putain, j'ai fait un truc mal. » Alors quand il m'a ramené en voiture chez moi, j'ai pas osé lui en parler. Je me suis dit « Laisse passer, tu verras bien ». Sauf que le « Laisse passer, tu verras bien », ça a pas suffi. Ça a continué à tourner dans ma tête en boucle pendant plusieurs semaines. Je sentais que, même avec une communication claire et limpide, je passais à côté de quelque chose. Donc ça bloquait quelque part. Et en fait, c'est lui qui a eu le courage de me dire les choses. Le 21 septembre, il m'a dit qu'il me trouvait tellement trop intéressante, mais que il n'y avait pas de crush amoureux de son côté. Il avait envie qu'on reste potes, qu'on continue à se voir, mais qu'ensemble, il n'y avait pas de relation amoureuse. Alors j'ai réfléchi en me disant que, avec les temps qui courent, ce ne serait pas une mauvaise idée d'avoir des contacts dans la police. Et puis plus sérieusement, on a convenu ensemble qu'on n'avait pas envie de se quitter et qu'on resterait potes. Alors le bilan de cette relation, c'est quoi ? Déjà, j'ai pas niqué la police, mais maintenant j'ai au moins la preuve que l'amitié homme-femme existe. Et puis au pire, je pourrais toujours dire...
Merci beaucoup Diane, merci beaucoup. Et c'est la fin de cette matinale. C'était Francesca à l'animation, merci à nos invités, les interviews. C'était Léonore et à l'interview Zoom, Farah. Merci Samia pour le Flash Info, nos chroniqueurs Hugo, Abel et Diane à qui on espère trouver l'amour. Simon à la réalisation, Aude et Jeanne à la coordination de cette émission. On revient demain, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radiocampus.org pour écouter tous nos podcasts ou la matinale RCP. Sur Instagram, très bonne soirée sur le 93.9 et à demain.